Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien c'est le 1 712 432 9 978. Alors aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou. Tout de suite, donc pour commencer, voici Sentez-vous bien. Sentez-vous bien, une émission de santé avec le docteur Jean Lindsay. Bonjour.
Bonjour Oscar.
Nous avons l'habitude, bien à ce micro, de nous arrêter sur des sujets en lien avec la santé et aussi sur les avancées de la médecine. Et aujourd'hui, docteur Jean Lindsay, eh bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, il sera question d'une sorte de cannabis fabriqué par le cerveau lui-même. Alors, il va falloir nous expliquer, là, docteur Jean Lindsay, de quoi est-ce qu'il s'agit. Exactement.
Les scientifiques qui se sont intéressés au cannabis ont cherché à comprendre comment le cannabis agissait sur le cerveau. Et donc, ils ont cherché les récepteurs qui étaient susceptibles d'être activés par le cannabis. On a trouvé les récepteurs qui s'appellent CB1. Mais on s'est dit, il y a eu un moment où on avait bien l'activateur du récepteur par le cannabis, qui est issu d'une plante, mais on ne savait pas à quoi ça servait dans le cerveau. Puis on s'est aperçu qu'il y avait, le cerveau fabriquait des molécules qui activent ce récepteur. Et ce sont, alors il y en a beaucoup, hein, c'est toute la famille de ce qu'on appelle les endocannabinoïdes, c'est-à-dire la famille du cannabis, mais fabriquée par le cerveau. Et on peut en citer quelques-uns, ce sont des noms un petit peu scientifiques, hein. C'est le 2-arachidonylglycérol, c'est le N-arachidonyldoyldopamine, ou NADA, le noladin éther, la virodamine. Et ils sont fabriqués par les membranes des neurones. À quoi servent-ils?
C'est ben oui, ça la question. Oui, hein, à quoi ça sert ça, quoi que ça le sert. Cerveau fabrique ces molécules?
Pour faire simple, en gros, l'influx nerveux va dans le sens de l'axone, c'est-à-dire le prolongement long du neurone, vers la dendrite, c'est-à-dire le petit prolongement qui se trouve généralement près du noyau du neurone, et ça va dans le sens axone-neurone. Et on s'est aperçu que la voie du cannabis était rétrograde, elle marche à contre-courant. Et on s'est aperçu qu'en fait, ça avait un rôle d'amortisseur, c'est-à-dire que les endocannabinoïdes servent à limiter l'ampleur des signaux que les neurones s'envoient les uns aux autres par des voies chimiques.
Et pourquoi est-ce qu'il faut les ralentir?
Ça, vous demanderez au bon Dieu.
Alors, on n'a pas encore tout découvert.
Pourquoi? On pense que c'est parce que vous savez, dans le vivant, très souvent, on a des mécanismes qui vont... C'est l'équilibre entre ce qui va dans un sens et ce qui va dans l'autre qui trouve le bon ajustement.
Ça vient équilibrer le fonctionnement.
On peut penser ça. Hein. Mm-hmm. Les neuromédiateurs classiques, c'est l'acide glutamique, l'acétylcholine, l'acide gamma-aminobutyrique, la glycine, la noradrénaline, la sérotonine, des neuropeptides, qui activent donc dans le sens axone dendrite, mais les endocannabinoïdes vont moduler. Ça va régler selon l'endroit du cerveau, selon le type de neurone, selon les circonstances, selon la façon dont les voisins sont activés. Enfin,
Oui, c'est complexe.
Quand même, le cerveau, c'est quand même l'objet le plus complexe de l'univers connu. Hein. Visiblement, ça a un rôle régulateur dans le fonctionnement cérébral. On sait maintenant qu'on a des tas de zones du cerveau où il y a trop de récepteurs CB1. Les récepteurs du cannabis s'appellent les CB1, qui sont sur les membranes des neurones. Et il y a des endroits où il y en a beaucoup, il y a des récepteurs de réserve. Ça fait que dans ces zones-là, avec très peu de tétrahydrocannabinol, on va avoir la totalité de l'effet. Et comme le THC, le tétrahydrocannabinol, a la particularité de se dissoudre dans les graisses et de relarguer ensuite très lentement, il suffira de très peu de tétrahydrocannabinol pour avoir en permanence l'effet maximum sur ces zones-là. On a dit que le cannabis n'était pas une drogue douce, c'est une drogue lente. La moitié, chez un fumeur régulier, vous avez seulement la moitié du cannabis qui est éliminé au bout de 3 semaines.
La moitié au bout de trois semaines.
L'effet hédonique, l'effet plaisant, la raison pour laquelle les gens fument du cannabis, c'est la stimulation du circuit de la récompense. Ça va durer quelques heures. Par contre, sur le mauvais fonctionnement du cerveau, ça va durer des semaines. Mais le sujet s'en rend pas compte.
Et alors donc, au fond, c'est ce que nous apprend ce fonctionnement dont vous venez de nous parler dans le cerveau, oui ?
La molécule de la plante, le THC, se lie très fortement au récepteur, active cette voie de signalisation dans le cerveau, et ça, elle le fait très longtemps. Alors que dans la nature, les cannabinoïdes, le cannabis naturel fabriqué par le cerveau, lui, il est détruit très très vite. Il y a des enzymes qui détruisent le cannabis, le naturel, très vite. Alors que le cerveau n'est pas capable de se défendre contre le tétrahydrocannabinol, puisque il n'y a pas apparemment beaucoup d'enzymes pour le dégrader. On a décrit des cas de gens qui étaient morts dans des accidents de la route, qui n'avaient pas de cannabis dans le sang, mais dont le cerveau était rempli de cannabis, de tétrahydrocannabinol.
Plusieurs jours après.
Ah bah oui. Mm-hmm. Oui.
Vous pouvez rajouter encore une chose avant de nous quitter ou vous avez à peu près fait le tour de la question?
On comprend mieux pourquoi le cannabis bénéficie d'une image de marque qu'il ne mérite pas. C'est parce que le sujet qui prend du cannabis ne se rend pas compte des effets. C'est-à-dire qu'il croit que le cannabis n'agit que pendant le temps où il a la sensation euphorique, hédonique, on dit hédonique, le plaisir que donne le cannabis, la détente surtout, la suppression de l'anxiété, c'est surtout ça que cherche l'utilisateur de cannabis, ça suspend l'angoisse pendant quelques heures, mais ce dont ne se rend pas compte l'utilisateur de cannabis, c'est que ça va modifier le fonctionnement de son cerveau en profondeur, et que rien ne lui permettra de percevoir cette modification de fonctionnement qui malheureusement ne va pas dans le bon sens.
Et que ça dure plusieurs semaines.
Et en particulier, le gros sujet, c'est que ça altère les mécanismes de mémorisation.
Merci beaucoup, docteur Jean Lindsay. Donc, c'était Sentez-vous bien. Aujourd'hui, il était question d'endocannabinoïdes. On se retrouve rapidement pour un nouveau sujet dans Sentez-vous bien. À bientôt. Au revoir.
Au revoir, Oscar.
The Voice of Hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Top Cuisine, une émission savoureuse et bonne pour la santé. Présentée par Oscar Miani.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Top Cuisine avec Jesmylène Lopez. Bonjour Jesmylène.
Bonjour Oscar.
Bienvenue, merci de nous retrouver pour nous proposer une nouvelle recette.
Merci.
Et aujourd'hui, alors je rappelle que ce que vous nous proposez, ce sont des recettes végétariennes.
Hein. Tout à fait.
On ne l'a pas dit forcément dans toutes nos émissions, mais je rappelle aujourd'hui que vous nous proposez des recettes végétariennes.
Toujours des recettes végétariennes.
Voilà.
Et pas vegan.
Pas vegan. Vous nous proposez un nouveau gratin. Il s'agit d'un gratin de poireaux et pommes de terre au curry. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? Quels sont les ingrédients nécessaires pour cette recette, Jesmylène?
Alors, pour cette recette, on aura besoin des
pommes de terre, évidemment.
Bien sûr.
Combien de pommes de terre?
on va dire 1 kilo.
Et ça, ça va convenir pour combien de personnes?
4 personnes.
4 personnes. Donc une famille de 4 personnes.
Une famille de 4 personnes. Oui.
Voilà, 1 kilo de pommes de terre. Quel type de pommes de terre vous utilisez?
Oh, n'importe. N'importe quelle. Dès que c'est des pommes de terre, c'est bon.
D'accord, donc 1 kilo de pommes de terre.
1 kilo de pommes de terre, 3 bâtons de poireaux.
Oui.
Un oignon, gousse d'ail, une cuillère à soupe de curry.
Une cuillère à soupe?
Oui.
D'accord.
Il faut bien qu'on sent le
goût
à
curry.
Oui, le goût à curry.
D'accord.
Vous connaissez, c'est un mélange. Ça se vend dans
Ce sont des épices hein, qu'on achète.
Oui,
des épices
déjà
à curry,
fait.
Hein.
Oui, uh-huh. Oui, des épices à curry.
Oui, d'accord.
Donc, une cuillère à café de curcuma.
Une cuillère?
Oui, d'accord. À café. Donc, c'est une épice aussi qui ressemble à curry.
Oui, en poudre.
En poudre, toujours en poudre, les deux. Et on va rajouter aussi 2 carottes.
2 carottes.
Oui.
D'accord. Et un peu de poivre et un peu de sel.
Un peu de poivre, un peu de sel, un peu de persil. Et puis, voilà, c'est bon des épices. Et puis, si vous voulez rajouter d'autres épices, vous pouvez le faire aussi.
Top Cuisine.
Comment est-ce qu'on prépare tout ça? Comment
Alors,
ça se passe?
Pour préparer tout ça,
donc ce sera une recette en 2 étapes, hein, comme le gratin de la dernière fois, le gratin à la banane plantain. Aujourd'hui, c'est le gratin de poireaux et pommes de terre au curry. Mais il y aura 2 parties aussi avec une sauce béchamel.
Tout
et
à
puis,
fait.
Les poireaux et les pommes de terre d'un autre côté.
Et voilà. Mmh. Et voilà. Donc, dans une casserole, on va mettre l'oignon, gousse d'ail. Si vous me connaissez, je commence toujours par là. Parce que ça rapporte quand même des très bons saveurs.
Et dans l'huile d'olive, dans une cuillère d'huile
d'olive. Et on va laisser mijoter pendant 5 à 10 minutes.
D'accord. On laisse ça à feu doux, hein.
Dans le feu doux, on surveille bien la cuisson et on mélange.
D'accord.
Ensuite, on va bien laver les poireaux et on va les couper en rondelles fines.
Oui.
Et on va éplucher aussi les carottes et on va les râper en lamelles fines aussi. Des côtés, on va éplucher aussi les pommes de terre. On met de côté.
Et l'oignon, l'ail, les poireaux et les carottes, on les laisse mijoter pendant combien de temps dans cette casserole?
5 à 10 minutes à feu doux toujours. On rajoute des poireaux et de lamelles fines des carottes. Et on laisse 5 à 10 minutes encore.
Pour résumer, Jesmylène.
Oui, c'est un peu confus.
L'oignon avec l'ail dans l'huile d'olive pendant 5 à 10 minutes à feu doux, et puis ensuite, une fois que ces 5 à 10 minutes sont passées, on ajoute
poireaux
coupés en rondelles très fines et des lamelles de carottes.
Et on laisse encore
5 à 10 minutes.
Oui.
Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien, on épluche les pommes de terre.
On épluche les pommes de terre à ces moments-là et on les coupe, hein, on met de côté. À la fin de 10 minutes, voilà, une fois que poireaux et carottes sont cuites, ou même pas, c'est pas besoin que ça soit vraiment cuit. On va mélanger les pommes de terre. On va tout mélanger.
Dans la casserole, alors, il faut prévoir une très grande casserole.
Une moyenne casserole, quand même.
Top Cuisine.
Et puis, on va faire notre sauce béchamel,
oui, donc,
que vous connaissez déjà.
D'un autre côté, il faut préparer la sauce béchamel. Alors, vous nous rappelez les ingrédients dont on a besoin pour préparer cette sauce?
Donc, 80 grammes de farine.
Oui.
40 grammes du beurre, 600 grammes du lait, noix muscade et poivre.
D'accord. Donc,
un petit sel aussi.
Et puis alors vous, Jesmylène, ce que vous faites, c'est que vous mélangez tout d'un coup dans une casserole?
On mélange tout dans une casserole et on met au feu doux
et on
continue à mélanger jusqu'à la sauce si épaississe.
Voilà, c'est très simple de réussir une sauce béchamel.
Très simple.
Voilà. Et une fois que cette sauce béchamel est prête, qu'est-ce qu'il nous reste à faire?
On va juste mélanger avec les autres ingrédients.
Oui.
Et on va mettre dans un plat au four.
Un plat de quel type?
Un plat
à bord haut.
De préférence.
Pour un gratin, un plat à gratin,
oui.
En fait.
Et on va mettre un peu de fromage par-dessus pour gratiner.
D'accord. Donc, on fait préchauffer le four.
On fait préchauffer le four à 200 degrés.
Oui.
Et on va enfourner ça. Et c'est pas obligé de mettre le fromage. On peut faire
c'est
sans
si
fromage.
On veut. C'est si on veut.
Oui, oui, oui.
Et donc, on fait préchauffer le four à 200 degrés et on laisse le four à 200 degrés pendant combien de temps pour que ce soit cuit?
Jusqu'au moment que la pomme de terre, on arrive à les faire cuire.
D'accord. Alors, ça prend un peu de temps quand même. Hein.
Ça va prendre un peu de temps.
Oui.
Peut-être 1 heure, 1 heure 20.
D'accord. À feu 200 degrés.
À 200 degrés, oui.
D'accord. Évidemment, on surveille que le fromage ne brûle pas. Hein.
Oui. Des préférences, il ne faut pas mettre le fromage. Pas tout de suite.
Ou alors, il faut couvrir peut-être.
Ou il faut couvrir, ou on ne met pas le fromage, on met à la fin.
D'accord.
Et les pommes de terre, c'est jusqu'au moment qu'elles soient cuites. Hein. Voilà. Ça peut durer moins 40 minutes si vous coupez très fine les rondelles ou carrés très fins. Il faut surveiller la cuisson jusqu'au moment que la pomme de terre plutôt soit cuite, parce qu'après les légumes, on peut les manger n'importe comment.
Voilà, donc, et on le sort du four, on laisse un petit peu refroidir et c'est prêt à manger.
Et c'est prêt à manger.
Voilà, ouais. C'est parfait. Merci beaucoup, Jesmylène. On arrive à la fin de cette émission. C'était Top Cuisine. Aujourd'hui, vous nous avez présenté le gratin de poireaux et pommes de terre au curry. On se retrouve pour une prochaine émission. Et là, on va passer à un jus. Et ce sera le jus de fruits de la passion.
De la passion. Ouais.
Voilà. À bientôt.
À bientôt.
On se retrouve pour Top Cuisine. Merci. Au revoir, Jesmylène.
Au revoir.
C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani.
Is Adventist World Radio, the voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. Shall not be a master, because you are not under law, but under grace. What then shall we sin, because we are not under law, but under grace? Oh, what then shall we sin, because we are not under law, but under grace?
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Top Cuisine, que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
En août 2003, l'actrice Marie Trintignant meurt des suites de la violence de son compagnon. Elle était la fille de l'acteur Jean-Louis Trintignant. Ce papa a plusieurs fois témoigné qu'il ne s'était jamais remis de la mort brutale de sa fille. Pratiquement 10 ans après les faits, en 2012, le dernier film dans lequel l'acteur a joué reçoit la Palme d'Or au Festival de Cannes. Jean-Louis Trintignant va prendre la parole lors de la remise du trophée et prononcer ces mots. « Je voudrais dire un petit poème de Prévert, très court, très court. Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ?» Lorsque l'on connaît le drame de ce père, comment pouvons-nous accueillir cette parole qu'il fait sienne ?« Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ?» Pour moi, cela fait écho à cette pensée de Jean de La Bruyère « Il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. » Je suis très touché et ému par le deuil de cet homme, tout comme par tous ceux de tous les parents qui ont perdu un enfant. Mais ce que je crois, et je suis conscient que cette parole m'engage beaucoup, c'est qu'il est possible, quels que soient les drames que l'on a vécu, de faire plus que d'essayer d'être heureux, qu'il est possible d'être dans la joie. Et si je vous demandais de me donner une définition la plus précise possible de ce qu'est la joie ? Je vous partage quelques mots qui peuvent venir à l'esprit assez facilement quand on parle de la joie. Le bonheur, le plaisir, la gaieté, la félicité, satisfaction, le bien-être, le rire, je pourrais en rajouter toute une liste. Dans la joie, il y a un peu de tout ça. Et ce qui rend la joie si exceptionnelle, c'est que justement dans la joie, on peut connaître toutes ces émotions, ces états que je viens de partager avec vous. Si nous sommes dans la joie, nous sourions, nous rayonnons, nous sommes bien. Et l'inverse n'est pas vrai. C'est une évidence et un regret. Je peux, nous pouvons sourire sans joie, nous amuser sans joie. Alors, comment définir cette émotion, cette valeur si exceptionnelle parce qu'elle est la porte d'entrée à toute une série d'émotions et d'états bienfaiteurs, et pour laquelle j'ai soutenu ma conviction que chacun peut la vivre, quelle que soit sa situation. Vous vous doutez bien que le dictionnaire propose plusieurs nuances, et que ce n'est pas la même définition, selon que l'on parle d'un moment fugace ou d'une espèce de plénitude constante. Voilà la définition que j'ai choisie. Sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent être satisfaits d'une manière effective ou imaginaire. J'ai tenu à vous la partager entièrement, mais voilà ce que je retiens pour notre propos d'aujourd'hui. La joie est le sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations viennent à être satisfaites. Ceci étant dit, avant d'aller plus loin, une petite précision pour régler une question qui est peut-être venue à l'esprit de certains. Parce que la joie est avant tout une émotion, bien avant que je puisse la traiter comme une valeur. Je pourrais toujours vivre cette émotion en me réjouissant pour le malheur de quelqu'un. Il est bien évident, mais la précision s'imposait. Je ne parle pas ici de ce type de joie qui se nourrit du malheur des autres. Abordons donc la joie comme une valeur positive, et pour servir ce propos, prenons le temps de redéfinir ce qu'est une valeur morale. Une valeur est un choix qui guide le jugement des individus et des sociétés. Elle prend la forme d'obligation qui s'impose à la conscience, comme un idéal. En choisissant cette définition, je suis donc en train de vous inviter, en vous proposant la joie comme valeur, de vous inviter à être volontairement joyeux et à le vivre comme un idéal de conscience parmi tant d'autres qui, comme toute valeur morale, retentira positivement sur la société. Je choisis la joie parce que je crois que je peux en faire une dynamique de vie qui ouvre la porte à une autre vision du monde. Il est bien entendu que nous ne changerons pas ce qui va mal en étant simplement dans la joie, mais être dans la joie peut changer notre approche du quotidien et par conséquent, le quotidien de ceux que nous sommes amenés à côtoyer. Je ne suis pas en train de vous proposer de faire l'autruche devant la misère du monde et de vivre béatement, pour ne pas dire bêtement, dans sa bulle. Ce n'est pas ce que je vous propose, bien évidemment. Si la joie comme émotion résulte d'une pensée, d'une expérience, du fait d'être vivant tout simplement, je suis vivant, donc je suis dans la joie ou dans la tristesse ou dans la colère. Par contre, la joie comme valeur résulte d'une autre vision du monde et même d'une autre compréhension du monde au-delà du quotidien de chacun. Alors, comment avoir une autre vision du monde qui favorise, qui installe la joie au cœur de mon être ? Pour ma part, cela ne résulte pas d'un choix psychologique, suite à un séminaire sur les blessures intérieures, même si réfléchir sur ma condition psychique m'a aidé à mieux comprendre certaines de mes émotions. Et j'invite chacun à vivre ce type de parcours de psychothérapie. Mais ma joie, personnellement, résulte de ma rencontre avec Dieu. Il est hautement significatif que la caractéristique biblique qui parle de la présence de Dieu, de la rencontre avec Dieu, n'est pas la paix, bizarrement j'ai envie de dire, mais la joie. Dans la Bible, la joie vient de la présence de Dieu. Pourquoi ? Comment ? Loin de moi la prétention d'avoir tout compris, et je m'en sortirai en vous disant que ça se vit plus, que ça ne s'explique. Le prix Nobel de littérature de 1947, André Gide, a dit « On appelle joie cet état de l'être qui n'a besoin de rien pour se sentir heureux. » Je le comprends ainsi. La joie est l'état de l'être qui n'a besoin de rien pour se sentir heureux parce qu'il a tout dans la présence de Dieu. J'aurais toutes les raisons d'être dans la tristesse, la colère ou la violence parce qu'on m'a enlevé ma fille. Mais je suis dans la joie parce que la présence de Dieu m'assure une autre vision de la vie et de la mort. Je suis dans la joie parce que dans l'espérance.
C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain.